les aimes, tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça me demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous vous demandez à quoi servent les livres de philosophie?
Exactement. Alors, expression probable de son marxisme désabusé, Manchette, dans l'un de ses polars, confronte brièvement son héros à la bibliothèque d'un appartement bourgeois, et celui-ci note, de façon particulièrement mélancolique, que sont rassemblés ici les plus beaux fruits de 3 millénaires de pensée, comme dans l'appartement d'à côté et dans celui d'après. Tout Platon en GF, tous les présocratiques dans un folio, tout Kant en 2 ou 3 Pléiades, le meilleur de Spinoza dans un vieux 1000 et une nuit à 10 francs, des Nietzsche un peu partout, un Gréco sur un Malebranche, un livre de Zhuang Zi égaré à côté d'une somme théologique découpée en une quarantaine de petits livres gris. Il n'y a qu'à se tourner vers sa bibliothèque pour être saisi de vertige. Les réseaux neuronaux les plus longs, les pensées continuées le plus loin, l'axone interminable de l'argument ontotéologique de Saint-Anselme, les dendrites étoilées communicantes de l'arbre de Porphyre, tout cela laissé à notre disposition comme des feuilles dans un herbier, des feuilles aux vertus souvent soporifiques et parfois hallucinogènes.
Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a 2 idées. D'abord, il y a l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise du temps et ce qui est plus important de nous-mêmes.
Pire encore que le frisson borgésien de Babel, c'est l'idée que l'histoire de la philosophie a sélectionné là ce qu'il y a de meilleur, les arguments les plus imparables, les plus durement définitifs des antinomies de Kant au théorème d'incomplétude de Gödel. Quelque chose qui n'est pas tout à fait à la portée du premier singe dactylographe venu. Tout est là pourtant à portée de main, le plus loin que nous sommes jamais allés intellectuellement, que nous irons probablement. À portée de main, un Louvre de la pensée, une bibliothèque d'Alexandrie, partiellement reconstituée, et l'ensemble garde bien quelque chose de la ruine, car ce fragment figé de Parménide, cet argument imparable de Duns-Scott, était initialement une pensée nouvelle, un éclair d'intelligence à 37 degrés dans la nuit du cosmos. Ces expériences intimes ou sauvages avec la vérité ont été domestiquées dans ces livres, arraisonnées par le langage. L'existence des bibliothèques de philosophie pose au plus haut point la question du rapport entre la pensée et les mots. On voudrait apercevoir derrière les livres la masse gélatineuse de la pensée pure, comme si tout cela, ces pages parallèles, agissaient comme un filtre destiné à convertir cette substance aussi indicible que familière en concept.
Là, ce sont les fondations du donjon. Mais comment rejoindre la bibliothèque? Les rats, encore plus que les savants, raffolent des parchemins. Suivons-le, viens. Oh, je le savais. Pazzo, tu t'imagines? Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Combien d'autres salles? Combien d'autres livres?
Le grand métaphysicien anglais Whitehead reconnaît pourtant qu'il ne pense pas en mots, qu'il commence par des concepts puis qu'il essaie de les mettre en mots, ce qui est souvent très difficile. On retrouvera peut-être ici quelque chose qui rappelle la pratique des mathématiciens qui ne pensent en général ni en nombre ni en figure, mais plutôt en termes de structure cachée. Mathématicien de Whitehead a été proche quand il a coécrit avec Russell les Principia Mathematica, une œuvre gigantesque par laquelle les deux jeunes logiciens ont tenté de traduire les mathématiques, l'indicible mathématique, dans la transparence du langage logique. Et il leur a fallu alors des pages et des pages de formalisme impeccable pour raconter ce qu'était une addition, ce qu'était un chiffre, des tomes entiers pour rendre raison de concepts qu'un enfant de 7 ans maîtrise à la perfection. Devenu métaphysicien, Whitehead se montrera plus économe. Celui qui mettait des centaines de pages pour dire l'évidence d'un signe arithmétique s'est même trouvé presque à court de mots. On lit ainsi, dans la présentation de l'édition française du grand œuvre de Whitehead, Procès et réalité, cette notation qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un traité de métaphysique, une indication dérisoire sur le nombre de mots qu'il comporte. 160 000 en tout, dont 7 000 mots différents, car il y a des redondances comme avec ce mot d'univers qui se répète 145 fois. Ces calculs paraissent mesquins, et puis on se dit que c'est l'œuvre elle-même qui est mesquine. Faire un traité de métaphysique tout englobé, dire ce qu'il en est de la forme du monde en 7 000 mots, comment l'homme peut-il croire cela possible?
À quoi bon écrire des livres de philosophie?
La réponse tient à cette phrase de Whitehead, je ne pense pas en mots. Dans quoi mordent alors tous ces livres de philosophie aux pages aiguisées? Quelle est la substance de l'aventure philosophique si celle-ci prétend dépasser les interminables tautologies de la logique tout en accordant une confiance plus que modérée aux phrases plus ouvertes du langage ordinaire? La substance de la philosophie, c'est peut-être l'ambiguïté et l'insatisfaction, l'attente et l'approfondissement, l'écho d'une question dans le bruit blanc du monde, rien de moins bourgeois soudain qu'une bibliothèque de philosophie.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture.